Et ce soir, c'est Maxime Fayolle pour le journal de la rédaction. Bonsoir Maxime.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Plusieurs milliers de foulards rouges dans les rues de Paris ce dimanche, selon le ministère de l'Intérieur. Un mouvement qui s'oppose aux gilets jaunes et qui se veut non violent. Le reportage de Marjorie Péjac. Les marches pour le climat ont réuni également des milliers de personnes un peu partout en France. Un exercice particulier à Paris, place de la République, avec une agora citoyenne où chacun a pu donner ses idées. Nicolas Maduro décide de rejeter l'ultimatum des Européens. Hier, plusieurs pays ont demandé l'annonce rapide de nouvelles élections présidentielles. Un coup de pression qui n'a pas fait bouger le dirigeant contesté, nous dira Benjamin Delisle. Et au Panama, les 34e journée mondiale de la jeunesse ont pris fin ce dimanche. Reportage à suivre de Mathilde Imberti. Plusieurs milliers de personnes, jusqu'à 10 000 selon le ministère de l'Intérieur. Les foulards rouges n'ont pas réussi à mobiliser largement aujourd'hui. Le mouvement qui cherche à s'opposer à la violence des cortèges de gilets jaunes et au blocage engendré. Bonsoir Marjorie Péjac.
Bonsoir.
Alors ils ont défilé entre les places de la Nation et de la Bastille cet après-midi. Vous êtes allée à leur rencontre.
Oui, les manifestants alors espéraient être nombreux et bien plus nombreux. Les organisateurs comptaient rassembler au moins 20 000 personnes. 40 000 auraient été un succès selon eux, donc pas de gros succès, mais une manifestation qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant où la Marseillaise a été entonnée plusieurs fois. Des chants et une ambiance calme. C'est d'ailleurs pour un appel au calme que cette manifestation a été lancée pour dire stop aux violences qui émaillent régulièrement les cortèges des gilets jaunes. Stop aussi aux dégradations, comme par exemple sur l'Arc de Triomphe. Pour Michel, un retraité venu de Clermont-Ferrand, c'en est vraiment trop.
Je n'ai pas accepté qu'on s'attaque à ce monument. Et surtout, je voudrais qu'on ne fasse pas la restauration. Qu'on mette une pancarte, simplement, pour dire... Bonjour les imbéciles, je sais pas. Moi j'ai été CGTiste pendant 35 ans, les manifestations je les connais. Je ne supporte pas qu'on casse pour se faire entendre. Donc je viens essentiellement pour ça et je ne comprends pas l'attitude des gilets jaunes à l'heure actuelle. C'est contre-productif leur mouvement, il faudrait peut-être qu'ils arrêtent.
Parmi les manifestants, certains sont aussi venus clairement en soutien à Emmanuel Macron. Marie-Hélène, parisienne et cadre de 50 ans, le dit ouvertement.
Moi, c'est vrai que je soutiens Macron depuis toujours. Hein. Mais il faut absolument que les gens se rendent compte qu'on est dans un pays où on a beaucoup de choses. On a énormément de choses à notre disposition quand on est pauvre et qu'on n'aurait pas dans d'autres pays. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de désinformation. On fait croire que c'est un pays libéral. C'est pas du tout un pays libéral. C'est plutôt un pays socialiste, la France. C'est un pays dans lequel on paye beaucoup d'impôts et on reçoit beaucoup de l'État. Donc les gilets jaunes ne se rendent pas forcément compte de ça. Et nous, on n'est pas contre. Moi, je manifeste pas pour tout supprimer, pour devenir un pays libéral. Je pense qu'on manifeste pour dire qu'on est dans un pays où on a de la chance, les gens ont de la chance d'être en France. Voilà.
Que cette manifestation soit un soutien à Emmanuel Macron, c'est précisément ce que craignaient les gilets jaunes. Les organisateurs, eux, ont répété que ce n'était pas l'idée. En tout cas, le gouvernement a pris ses distances avec le mouvement des foulards rouges bien avant la manifestation pour tenter d'éviter l'accusation d'instrumentalisation. Le parti La République En Marche n'a pas appelé à manifester. C'est donc à titre individuel que élus et militants à LREM devaient décider de défiler ou non.
Marjorie Péjac, les foulards rouges qui s'opposent donc aux violences des gilets jaunes, on vient de l'entendre, des gilets jaunes qui étaient encore plus de 20 000 hier dans les rues de un peu partout en France. C'était l'acte 11 des chiffres du ministère de l'Intérieur. À Paris, l'une des figures de ce mouvement a été blessée à l'œil, place de la Bastille, c'est Jérôme Rodriguez. Une plainte a été déposée, l'inspection générale de la police nationale a été saisie pour tenter de comprendre les circonstances qui ont mené à cette blessure. Deux versions s'opposent. Jérôme Rodriguez a-t-il été atteint par une grenade de désencerclement ou bien par un tir de LBD, le lanceur de balles de défense? C'est une question au cœur de l'enquête, Sarah Guibaudot.
Hier, après avoir visionné les premières vidéos disponibles, une source policière penchait plutôt vers un tir de grenade. L'avocat de Jérôme Rodriguez, lui, n'y croit pas du tout. Pour lui, la blessure est caractéristique d'un tir de balle en caoutchouc, un gros hématome, mais pas d'hémorragie. Des témoins se sont manifestés qui ont bien vu un tir de LBD, dit-il. Un témoin a même ramené une balle à la famille. L'enquête devra surtout déterminer pourquoi et comment Jérôme Rodriguez a été touché ou visé. Sa silhouette familière des cortèges parisiens avec sa barbe et son chapeau n'était pas menaçante, ça sa vidéo le montre. A-t-il pris un projectile destiné à des individus violents qui à ce moment-là attaquaient les policiers? Écoutez ce qu'en pense son avocat, maître Philippe Deveul.
Il faut quand même savoir que le tir rapproché comme ça, c'est pas une bavure, hein. C'est pas on tire dans un groupe au hasard. On voit bien que les CRS sont très proches de lui. Il est même dans le périmètre non légal du tir de LBD. Je fais confiance à l'enquête IGPN, mais je peux déjà écarter l'hypothèse d'un éclat de grenade.
Les médecins qui ont soigné Jérôme Rodriguez permettront peut-être d'être fixés. Parmi les éléments matériels, l'IGPN aura sans doute pas mal de vidéos à éplucher, celles tournées par la police peut-être, et la vidéo surveillance évidemment, il y en a, place de la Bastille.
Les précisions de Sarah Guibaudot. 70 000 personnes réunies pour le climat à Bruxelles aujourd'hui. Un succès pour cette marche européenne. Des actions similaires ont même été organisées en France. Plusieurs centaines de personnes ont défilé à Lyon, Nantes, Tours ou encore Strasbourg. À Paris, pas de marche, mais un forum, une agora citoyenne, place de la République, avec où chacun a pu donner ses idées, notamment cette idée de modèle voulue par Florent. Il a 33 ans, il est ingénieur informaticien.
On abandonne ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme et une économie basée sur la croissance et on invente un nouveau système pour après adopter un comportement individuel. Si on attend que les politiques fassent tout, je pense que ça ne marchera pas. Après, il faut bien sûr essayer de convaincre les politiques, mais le premier enjeu, c'est de se convaincre soi-même. Notre premier pouvoir, c'est le pouvoir d'achat. Donc faire attention à ce qu'on achète, pourquoi on l'achète, est-ce qu'on en a vraiment besoin. Il y a plein d'idées. Donc moi, ce que je propose, c'est de regarder un peu tout et tout ce qui est possible immédiatement, le faire. Tout ce qui est facile, commencer par ce qui est facile. Et puis une fois que ça c'est fait, prendre un truc un tout petit peu moins facile et dire, bah voilà, ça, se fixer des objectifs, se dire, bah ça, ce comportement-là, d'ici un mois, je l'adopte. Des petits pas, sûr. Et après, participer à ce genre de manifestation pour emmener avec nous les politiques et toujours plus de monde. Toujours dans un raisonnement scientifique, c'est le plus important. C'est plus important que la politique.
Florent avec Pierre-François Plessis. La TVA sur les produits de première nécessité va-t-elle être supprimée? Le gouvernement y réfléchit et le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, s'est exprimé sur ce sujet aujourd'hui chez nos confrères de France Inter. Bruno Le Maire qui ne semble pas forcément favorable au regard du coût pour l'État, mais aussi du gain pour chaque Français.
Qu'il y ait un manque de cohérence sur les taux de TVA, c'est absolument évident. Je vous donnais juste un exemple très concret. On a abaissé la TVA à 5,5% sur les serviettes hygiéniques, parce que c'était considéré, à juste titre, comme un produit de première nécessité. Vous ne pouvez pas vous en passer. Sur les couches pour bébés, on a toujours un taux de TVA à 20%. Là-dessus, je suis tout à fait ouvert aux propositions qui sortiront du grand débat, avec simplement un impératif absolu. Que ça profite aux Français. Je dis simplement, à chaque fois qu'on bouge un taux, ça coûte des centaines de millions ou des milliards d'euros aux contribuables et au trésor public. Et il faut qu'en regard de ça, les Français puissent se dire, ça améliore vraiment ma vie quotidienne. Si c'est pas que ça leur rapporte quelques centimes ou quelques euros chaque mois, je pense qu'ils ne seront pas convaincus.
Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, il a également parlé du Brexit. Il souhaite un nouveau référendum sur cette question. 18h08 sur France Culture. Au Brésil, près de 40 000 personnes sont évacuées, mises en sécurité dans le sud-est du pays. Un autre barrage menace de s'effondrer. Les autorités ont décidé cette mise à l'abri préventive. Vendredi, un barrage a déjà cédé, entraînant une coulée de boue qui a coûté la vie à 37 personnes. Au Venezuela, Nicolas Maduro rejette sans surprise l'ultimatum des Européens. Hier, de nombreux pays, dont la France, ont demandé l'annonce de nouvelles élections présidentielles dans 8 jours. Si ce n'est pas le cas, l'Europe pourrait reconnaître Juan Guaido comme le véritable chef d'État du pays. Une décision qui ne fera en tout cas pas bouger Nicolas Maduro, Benjamin Delisle.
Ce n'est pas vraiment une surprise, mais ça a le mérite d'être officiel. Dans une interview à la chaîne CNN turque, Nicolas Maduro a invité les pays européens à retirer leur ultimatum. « Personne ne peut nous donner d'ultimatum », a-t-il déclaré. Déjà hier, son ministre des Affaires étrangères parlait d'ingérence infantile face au Conseil de sécurité de l'ONU qui s'était réuni pour aborder la crise vénézuélienne. Un ultimatum qui agace décidément beaucoup de monde. En plus des chavistes, de nombreux militants d'opposition sont déçus que l'Union européenne n'ait toujours pas reconnu officiellement Juan Guaido. Le refus rapide du président vénézuélien montre qu'il n'est pas prêt d'accepter la tenue d'élections comme le demande avec insistance l'opposition. Le bras de fer devrait donc continuer cette semaine avec une nouvelle grande marche annoncée par le président de l'Assemblée nationale. L'opposant souhaite plus que jamais accroître la pression sur le gouvernement bolivarien. Il a aussi multiplié les appels à l'armée tout au long du week-end, notamment en faisant la promotion de sa loi d'amnistie via des assemblées populaires organisées sur de nombreuses places publiques dans tout le pays.
Benjamin Delisle, à noter cette déclaration en France de Jean-Luc Mélenchon à propos de Nicolas Maduro. Je souhaite qu'il tienne, à affirmer le leader de la France insoumise. Le pape François s'est lui aussi exprimé sur la crise vénézuélienne. Il demande une solution juste et pacifique dans le respect des droits de l'homme. Une affirmation en clôture des 34e journée mondiale de la jeunesse, des JMJ organisées en Amérique latine, où le pape a rebattu ses thèmes clés appelant la jeunesse à s'engager, Mathilde Imberti.
Le pape insiste lors de ses JMJ du bout du monde sur la nécessité de la rencontre à l'heure des réseaux sociaux. Il ne veut pas que les jeunes comblent un vide en s'abreuvant de chat. Les pèlerins l'écoutent, bien d'accord avec lui, tout en envoyant images et vidéos pour immortaliser le moment. Ensuite, le visage de l'église, celle que Bergoglio appelle de ses voeux depuis le début de son pontificat. Une église aux périphéries qui n'abandonne personne, en route les migrants en particulier. Et du Panama, il lance un pic contre une société d'abondance qui les identifie et les traite comme les responsables de tout le mal social. Enfin, les abus incontournables. Les évêques du monde entier sont convoqués à Rome le mois prochain pour, espère le Vatican, trouver des solutions concrètes. Le chef de l'Église catholique regrette que l'institution n'ait pas su écouter. Le pape François rappelait à l'actualité dramatique du continent durant ses JMJ. Il a consacré ce midi son Angélus à la crise au Venezuela, appelant à une solution respectueuse des droits de l'homme.
Mathilde Imberti a noté que les prochaines journées mondiales de la jeunesse auront lieu dans 3 ans à Lisbonne. Un torrent de pierres et de boue a tué au moins 15 personnes au Pérou aujourd'hui. Cela s'est passé dans le sud-est du pays alors qu'un mariage se déroulait dans un hôtel. Celui-ci a été complètement ravagé par la coulée de boue. Plus d'une trentaine de personnes sont blessées. Les fortes pluies qui frappent également le nord-est de l'Australie. Le fleuve Daintree a atteint presque 13 mètres de hauteur. C'est du jamais vu depuis plus d'un siècle. Les crues sont si fortes qu'elles parviennent même à emporter des vaches. Des centaines d'habitants sont privés d'électricité. Une ligne de ferry qui est d'ailleurs la seule liaison possible avec certaines zones de la région est coupée. La mort du journaliste et critique de cinéma Henri Chapier, il avait 85 ans. C'est la Maison européenne de la photographie qui l'annonce. Henri Chapier avait d'ailleurs cofondé la MEP. Intervieweur reconnu, il était devenu célèbre avec une émission de télévision, Le Divan, entre 1987 et 1994. Émission reprise ensuite par Marc-Olivier Fogiel. Le ministre de la Culture, Franck Riester, rend hommage à un intervieweur inégalable qui a élevé la confession au rang d'art. La météo, c'est un temps pluvieux ce soir avec de la neige attendue en soirée et cette nuit sur l'est du pays, mais aussi sur le massif central et les Deux-Savoie. 4 départements des Pyrénées sont placés en vigilance orange aux avalanches. Il s'agit de l'Ariège, de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Demain, lundi, la pluie persistera sur le sud-ouest et le nord-est du pays. Du soleil est attendu en Méditerranée avec des températures qui oscillent entre moins 4 dans les Alpes, 10 à Biarritz, il fait 3 à Paris, 6 à Marseille, 5 à Saint-Étienne et 8 à Nice.